Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Cela fait 70 ans que la République populaire démocratique de Corée au nord et la République de Corée au sud évoluent séparément, figées dans un affrontement idéologique dont les signes perdurent en 2024. Au nord, Kim Jong-un a misé sur le hard power militaire en développant un programme nucléaire et balistique accompagné de tirs réguliers qui visent son voisinage. Au sud, le hard power s'est incarné dans une économie ouverte et dynamique qui place le pays au 13e rang des puissances économiques mondiales, à quoi il faut ajouter le soft power sud-coréen, musique, mode et cuisine qui sont devenus d'intenses vecteurs d'influence et d'attractivité dans le monde. Au tournant des années 2000, une période de détente a fait de la réunification une perspective régulièrement évoquée. Cette perspective s'est éloignée. L'agitation répétée de la menace nucléaire par Kim Jong-un sur fond de rapprochement avec Moscou et de déclarations ouvertement hostiles à la Corée du Sud sont-ils le signe d'un tournant dans la politique étrangère de Pyongyang ? 2024, une année de haute tension entre les deux Corées, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Sabine Janssen, professeure des universités au Conservatoire national des arts et métiers, chercheuse à l'ICT, Université Paris-Cité, et co-rédactrice en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro est consacré aux deux Corées. Bonjour.
Bonjour.
Marianne Perrondoise, chercheure associée à l'IRIS et directrice de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Et depuis Tokyo, Olivier Vaisset, ancien diplomate, essentiellement en Asie, Olivier Vaisset, qui a été le premier directeur du bureau français de coopération à Pyongyang entre 2011 et 2013. Dans un discours prononcé devant l'Assemblée suprême du peuple en janvier dernier, le leader nord-coréen Kim Jong-un déclarait que la réunification entre les deux Corées n'était plus possible et que le voisin du Sud représentait pour la Corée du Nord le premier et principal ennemi. Est-ce qu'il faut, Olivier Vaisset, y voir un tournant dans la politique étrangère de Pyongyang et quel facteur domestique explique ce changement de ton ?
Ben d'abord, il faudrait mentionner que dans le dernier livre blanc ou l'avant-dernier livre blanc de la Corée du Sud, la Corée du Nord était désignée comme l'ennemi principal. Ensuite, est-ce qu'effectivement la politique étrangère du Nord est en train d'évoluer ? Oui, je pense. Après, pour parler français, le désappointement, je suis désolé.
La déception.
Voilà, la déception avec les réunions de Kim Jong-un et de Trump, l'ex-président Trump.
En 2018 et en 2019.
D'autre part, il y a eu un raidissement politique au Sud, puisque les présidents d'origine démocrate qui avaient fait le Open Door Policy, enfin la politique du soleil, ont été remplacés par des conservateurs qui ont une politique beaucoup plus dure. Donc, vu du Nord, les nouvelles sont plutôt mauvaises. Et à Pyongyang, se dit il n'y a pas de raison d'espérer ni du côté de Washington, ni du côté de Séoul. Donc, on revient vers cette relation fondamentale avec la Chine et la Russie.
Oui, que l'on va bien sûr aborder précisément, Marianne Perrondoise et Sabine Janssen, ici en studio. Est-ce que, d'une certaine manière, le contexte international permet aujourd'hui à la Corée du Nord d'affirmer une opposition avec la Corée du Sud de façon plus officielle, Marianne Perrondoise ?
Alors, moi, je voudrais, bien sûr, dans un premier temps, faire écho à votre première question, parce que je pense qu'il y a quand même des constantes dans la politique étrangère qui est développée, notamment sur le chapitre des relations intercoréennes, une constante dans ces mouvements cycliques qui montent d'un extrême à l'autre, font que l'on peut être très optimiste quant au rapprochement qui peut être initié précisément par un gouvernement d'orientation démocrate, comme l'a précisé Olivier Wessé. Or, il se trouve qu'en ce moment, le balancier est plutôt du côté des conservateurs à cause de l'élection du président Jung. Et donc, étant donné les résultats très négatifs des discussions qui ont été amorcées et qui avaient déclenché beaucoup d'espoir du côté de la Corée du Nord, donc avec les Américains et le fiasco du sommet de Hanoï en 2019, il se trouve que par un mouvement donc de balancier assez classique, on revient à une période de tension. Mmh. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'on observe régulièrement dans les initiatives concernant le Nord et le Sud. On a un rapprochement, une période de tension, une période de refroidissement, une re-période de tension marquée par la reprise des essais. Et c'est clairement ce que l'on a pu observer. Mais c'est vrai aussi que ce gouvernement conservateur se montre assez intransigeant, effectivement, vis-à-vis de la Corée du Nord, puisque il a quand même estimé que le prédécesseur, le président Moon Jae-in, qui a favorisé cette prise de parole entre les États-Unis et la Corée du Nord, s'est montré dans sa volonté de rapprochement tellement opiniâtre qu'il en a été jugé complaisant vis-à-vis de la Corée du Nord, qui n'a à aucun moment donné des gages de dénucléarisation, puisque c'est quand même le fond du problème et le fond des attentes de la partie américaine. Donc on se retrouve engagé dans un nouveau cycle avec beaucoup d'intransigeance de part et d'autre et où Kim Jong-un doit reconnaître, et il l'a fait d'ailleurs, une certaine forme d'échec dans sa tentative de rapprochement avec les États-Unis et où il peut estimer d'ailleurs que sa confiance a été trahie. Donc il prend sa part dans l'échec qu'il a reconnu et finalement reprend l'initiative en se repositionnant sur une posture qui est assez dur, sur la reprise des essais nucléaires et sur un dialogue et des déclarations tant, définitive apparemment vis-à-vis des États-Unis que vis-à-vis de la Corée du Sud, donc qui sont les deux ennemis traditionnels.
Sabine Janssen.
Oui, alors je crois qu'il faut revenir un petit peu dans le passé, à l'histoire. Je dirais comme ma voisine qu'il y a eu toujours une politique de la douche écossaise, une alternance. Et du reste, depuis le début, depuis 1953, il faut quand même se rappeler que les deux Corées vivent sous un régime d'armistice. Donc théoriquement, techniquement, la guerre n'est pas terminée. Au début de la création de 1948, on est dans un rejet, réciproque de l'une et l'autre Corée, avec, malgré tout, du côté de la Corée du Nord, davantage d'agressivité, notamment par le biais du développement de ce programme nucléaire. Et je pense qu'il faut quand même nuancer, la coloration politique de la politique étrangère de la Corée du Sud, parce qu'il y a aussi des gouvernements conservateurs qui ont pratiqué cette politique du rayon de soleil qu'Olivier Wessé évoquait. Et je pense qu'il faut se remémorer les débats du temps de la guerre froide avec l'Union soviétique, la question de la détente. Et là, on observe la même chose, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il y a eu des critiques au sein des dirigeants coréens pour dire finalement que nous rapporte cette politique du rayon de soleil. Ça n'empêche pas la nucléarisation de la Corée du Nord et ça n'empêche pas non plus une progression sur le plan des droits de l'homme. Donc, au fond, les dirigeants coréens essayent de juger sur pièce et on a ce mouvement de balancier. On estime, comme on l'a fait, que finalement la détente, entre guillemets, va servir plutôt la Corée du Nord qu'elle ne sert les intérêts de la paix et de la coopération. Donc, je pense qu'il y a cette dimension. Par ailleurs, on a sur le plan international, vous y faisiez référence à la fin de votre question, Marie-France, qu'on a sur le plan international un raidissement généralisé, une forme de cristallisation de blocs. Et je pense que du côté de la Corée du Nord, je ne vois pas du tout quel est l'intérêt pour l'actuel dirigeant, pour les Kim, de renoncer au programme nucléaire et de tenter même d'évoquer même tout simplement une réunification. Et d'ailleurs, sur ce point, dès le début, dès les premiers contacts, les reprises de contact en 1972, il y avait un désaccord sur la façon de procéder. Pour les Kim et pour la Corée du Nord, il fallait avant tout d'abord une réunification politique, alors que la Corée du Sud assistait sur le développement des échanges économiques comme base à cette réunification politique. Voilà, donc je pense qu'on assiste aujourd'hui avec des constantes dans ces mouvements cyclique à une cristallisation et à une sorte de, d'enfermement de chacun dans ses positions.
Alors, vous l'avez dit, oui, Olivier Vaisset, bien sûr.
Je crois qu'il faut vraiment souligner fondamentalement que la Corée du Nord est maintenant un État nucléaire, que ça nous plaise ou non. Donc, les fantasmes de leur demander de nucléariser maintenant avant de procéder au levant des sanctions sont complètement ridicules. C'est vraiment ridicule, c'est ne pas accepter la réalité. Or, la réalité, si vous ne l'acceptez pas, ben, elle vous saute à la figure. Deuxièmement, Pyongyang, dans ce contexte international, se trouve du côté des Russes. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous savez comme moi qu'il y a énormément de pays à travers le monde qui ne se mettent pas derrière les États-Unis ou les Européens pour juger la Russie par rapport à ce qu'on appelle une agression en Ukraine. Donc Pyongyang se trouve maintenant dans un espace nouveau qui la conforte dans son statut et dans sa situation. Voilà.
Espace nouveau, c'est effectivement ce sur quoi je souhaitais que l'on passe un certain temps. Sabine Janssen, je vous laisse rajouter quelque chose et après ça, je vous poserai ma question.
Oui, Olivier Vaisset a tout à fait raison. C'est un constat, un fait, effectivement. Cette arme nucléaire, il n'est pas question que la Corée du Nord s'en dessaisisse. Ça, c'est une assurance vie pour le régime. Et par ailleurs, c'est aussi une vitrine, un des instruments aussi de son hard power, mais aussi de son soft power. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la Corée du Sud souhaite aussi être elle-même dotée de l'arme nucléaire, soit, il y a un grand débat actuellement en Corée du Sud.
Sortir du parapluie américain
Soit il y avait des armes nucléaires américaines qui ont été retirées, il s'agit soit peut-être de les réintroduire, soit il y a eu des sondages, 60% de la population sud-coréenne serait partisane de développer ses propres armes nucléaires. C'est peut-être d'ailleurs la solution finalement pour réinstaurer une sorte d'équilibre.
Marianne Perrandoise.
Oui, alors ce débat sur le nucléaire, il est évidemment récurrent. Et c'est vrai que la société et l'opinion publique sud-coréenne semblent évoluer, conduit d'ailleurs par un certain nombre de chercheurs et de think tanks. Moi, il me semble que, dans un premier temps, le président Yoon, qui a eu quand même ce discours sur l'expression de certains doutes quant au parapluie américain, parce que, en fait, l'autre élément, ça n'est évidemment pas tant que cette forme de normalisation internationale de la Corée du Nord, qui se trouve confortée finalement dans sa marginalisation vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis d'un certain nombre de normes internationales touchant sa nucléarisation, se retrouve finalement dans un forum global de pays du Sud qui refuse effectivement un certain nombre de valeurs et qui souhaite ne pas avoir à s'aligner systématiquement sur les États-Unis ou le clan occidental. Et d'une certaine façon, quand le président Yoon parle de nucléarisation, c'est que la garantie de sécurité américaine, pour lui, semble mise en doute à la fois sur le plan des normes, mais aussi à la fois sur le plan des capacités. Et donc, il souhaite finalement être associé du moins à des discussions sur l'emploi de l'arme nucléaire, donc participer avec les décideurs américains à des exercice à un certain nombre de discussions sur la mise en œuvre. Et donc, il a parlé d'ailleurs de déroulement d'exercices nucléaires, des propos qui ont été aussitôt démentis par justement les responsables américains qui ne veulent pas aller trop loin dans ce registre, qui ne veulent pas agiter de chiffons rouges inutiles vis-à-vis de la nature des provocations nord-coréennes qui effectivement enfilent effets, essais nucléaires et balistiques les uns après les autres. Mais je pense qu'il y a aussi le positionnement américain et la nature de la garantie de sécurité américaine sur le long terme qui est aussi mise en cause.
Il faut rappeler que la Chine est à 300 km et les États-Unis sont à 7000 km.
Alors, moi, j'aimerais revenir sur ce que vous évoquiez, Olivier Vaisset. Donc, l'espace nouveau, c'est la question russe. Une visite de Vladimir Poutine est en préparation en Corée du Nord. Ce sera la première en 20 printemps. Les deux pays sont de plus en plus amis, ce qui est une véritable aide pour la Russie dans sa guerre avec l'Ukraine. On voit Moscou recevoir de l'armement de Corée du Nord pour appuyer son intervention en Ukraine. Est-ce que le rapprochement avec la Russie et cette fourniture d'armes en provenance de Corée du Nord, c'est un game changer, comme on dit chez les Anglais? C'est une donne qui change beaucoup de choses, Olivier Wessey.
Pas tout à fait. Pyongyang a toujours eu le souci d'avoir une relation bipolaire, si je puis dire, à deux têtes. D'un côté, la Chine et de l'autre côté, l'Union soviétique. Les relations sont devenues plus difficiles avec la naissance de la Russie pour des raisons de changement de relations commerciales et financières. Donc c'est Poutine qui a eu le souci de reprendre des relations positives avec Pyongyang. Et on se retrouve dans cet espace-là qui permet à Pyongyang de ne pas être complètement dépendant de la Chine. Même si la Chine reste indispensable, il y aura quand même un volet russe qui leur permet de mieux souffler. Alors sur le côté nucléaire, ni Moscou ni Pékin n'auront l'envie de reconnaître un statut d'état nucléaire à la Corée du Nord.
Pour quelle raison, Olivier Wessey?
Parce que ça donnerait de mauvaises idées à tous les autres qui souhaitent être reconnus ou être reconnus comme état nucléaire ou développer leurs capacités nucléaires.
On pense
donc
bien...
la prolifération.
Tout à fait.
Donc game changer, je ne pense pas tout à fait. D'abord, les experts nous disent que ce n'est pas les munitions nord-coréennes qui vont changer les capacités russes sur le terrain d'une manière fondamentale.
On peut juste préciser que tout de même, d'après les renseignements américains, la Corée du Nord aurait envoyé quelques 10 000 conteneurs de munitions et autres matériels à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Et vous ne pensez pas que cela puisse changer quoi que ce soit sur le rapport de force sur place, Olivier Wessey?
Tout dépend aussi de ce que vont envoyer les Américains du côté ukrainien.
Alors, le Congrès américain a voté cette semaine une aide à l'Ukraine d'une soixantaine de milliards de dollars après beaucoup de tergiversations. Est-ce que l'on sait finalement quelle est la teneur de l'accord entre Moscou et Pyongyang? Qu'est-ce que la Corée du Nord obtient en échange de la livraison d'armes à la Russie? Olivier Wessey, on a quelques idées?
Ce qu'ils souhaitent, c'est une aide alimentaire fondamentale et une aide financière. Alors déjà, il y a quelques années, Moscou avait décidé de rayer 90% de ce que devait Pyongyang à la Russie. Donc il y avait déjà eu un gros effort de fait. Mais ils ont encore des besoins, aussi bien alimentaires, évidemment, qu'en devises. C'est évident.
Je vous reposerai la question un petit peu plus tard dans la deuxième partie de l'émission sur ce que l'on sait de la situation aujourd'hui en Corée du Nord. Sabine Janssen.
Oui, ce qui est fascinant avec la Corée du Nord, c'est que finalement, elle a toujours cherché à conserver des marges de manœuvre. Et au fond, la famille Kim, depuis le début, essaye d'exister et comme le disait Olivier Wessey, d'avoir effectivement des relations bipolaires, de ne pas s'enfermer dans la main de la Chine et de ne pas s'enfermer dans la main de la Russie. Néanmoins, ce qui me paraît changer aujourd'hui, et on l'a vu là, lors du dernier vote au Conseil de sécurité le 30 mars, c'est que les Russes et les Chinois sont en train de resserrer leur alliance stratégique. Ils ont très clairement fait échouer la reconduction du comité d'experts chargé de veiller à la bonne application des sanctions, alors que faut se souvenir que depuis 2006, malgré tout, au Conseil de sécurité, les Chinois et les Russes ont toujours soutenu les mesures de sanctions contre le régime pour sa nucléarisation. Donc on a quand même, à mon sens, là, un changement. Alors qui s'explique très bien, hein, parce que c'est dans l'intérêt en fait des trois pays. Pour ce qui concerne ce que peut donner en Ukraine, cette alliance, c'est difficile de le dire aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quand même, on parle 1 million d'obus. Hein, je ne sais pas dans quelle mesure c'est le chiffre est exact. Ce qui est certain, c'est que si les Russes ont décidé d'opposer leur veto à la reconduction du comité des experts chargé de veiller à l'application des sanctions, c'est que ce comité des experts était en train de faire un rapport précisément sur les aides que la Corée du Nord apportait clandestinement à la Russie.
Sabine Janssen, on vous retrouve avec Olivier Vaisset et Marianne Perrondoise après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur les Corées, nous retrouvons nos invités, Sabine Janssen, professeure des universités au Conservatoire national des arts et métiers, chercheuse à l'ICT et à l'Université Paris-Cité et co-rédactrice en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro est consacré aux deux Corées. Marianne Perrondoise, chercheure associée à l'IRIS, directrice de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'IRIS, et par téléphone depuis Tokyo, Olivier Vaisset, ancien diplomate essentiellement en Asie, et Olivier Vaisset qui a été le premier directeur du Bureau français de coopération à Pyongyang entre 2011 et 2013. Marianne Perrondoise, on a terminé la première partie de l'émission sur ce rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie avec l'envoi par Pyongyang d'armes à la Russie pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine. Et je posais la question de savoir qu'est-ce que l'on savait finalement des termes de cet accord et de ce rapprochement entre Pyongyang et Moscou. Alors, besoin côté nord-coréen d'argent liquide, de nourriture, de pétrole aussi, peut-être également de l'aide militaire. En tout cas, ce rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie, c'est un élément important sur la scène internationale aujourd'hui, Marianne Perrondoise.
Oui, je pense que c'est important parce que cela accroît justement cette normalisation de la posture internationale de la Corée du Nord. Et c'est vrai que l'actuel leader s'est montré extrêmement habile à, je dirais, prendre la parole en public, à montrer une certaine forme d'assurance, s'est exprimé face à Trump, s'était rendu donc à Singapour, à Hanoï, donc à desserrer les taux qui pesaient quelque part sur la péninsule. Est sorti un peu de ce relationnel assez confiné. Et avec l'Ukraine, il y a un nouvel éclairage international qui est donné à la Corée du Nord. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui étaient strictement attachés à la péninsule coréenne et sans doute que les États-Unis voulaient laisser confiner à l'Asie du Nord, mais qui prennent, je dirais, une résonance à l'échelle internationale. C'est-à-dire que les enjeux de sécurité, en fin de compte, propres à cet espace, qui paraissait être le fait de puissance régionale, on a évidemment parlé de la Corée du Sud, de la Chine et de la Russie, en plus évidemment de la Corée du Nord et des États-Unis. Mais désormais, il y a l'Europe, désormais, il y a l'OTAN. Et le facteur ukrainien, finalement, cristallise un peu tout cela, dans la mesure où on voit très bien que le Japon et la Corée du Sud, dès le début de l'attaque russe, ont pris parti, se sont rangés du côté des soutiens à l'Ukraine, ont dénoncé l'agression, tout en mettant bien la science sur le fait que accepter un rapport de force, accepter un coup de force dans les relations internationales pouvait donner des idées à d'autres perturbateurs. Et évidemment, ils avaient les yeux fixés sur la Corée du Nord, mais bien entendu sur la Chine. Et le fait que très tôt, ils ont pu livrer une certaine forme d'aide à l'Ukraine, une aide humanitaire, mais aussi une aide technique liée peut-être à des équipements militaires, on va dire défensif, mais la Corée du Sud, ne l'oublions pas, est un fournisseur et un exportateur très important d'armement. S'est démarqué du Japon dans l'aide indirecte à l'Ukraine en fournissant des équipements à la Pologne, en fournissant des équipements aux États-Unis qui leur permettent de recompléter finalement des stocks qui sont mis à mal justement par les transferts qu'ils accordent à l'Ukraine. Donc on a une mécanique qui s'est mise en place où on voit très bien les camps qui effectivement étaient répartis autour de la confrontation nord-coréenne États-Unis se mettre en place à l'échelle internationale et à l'échelle européenne. On voit finalement le conflit nord-est asiatique que l'on avait peut-être laissé ou délégué aux États-Unis avec juste une approche de contre-prolifération. collaboration qui a donné les résultats qu'Olivier Vesset et ma collègue ont souligné, un résultat tout à fait nul. Et là, on voit le conflit prendre une ampleur nouvelle, déborder des frontières et arriver, je dirais, en Europe, avec de plus la Corée du Sud et le Japon voulant se rapprocher de l'OTAN. Et très clairement, se rapprocher de l'OTAN, demander un partenariat assez spécialisé, des formations, un soutien en matière de capacité, mais surtout indirectement une autre garantie de sécurité qui n'est plus uniquement la garantie de sécurité classique octroyée par les États-Unis. Donc on voit encore cette espèce de mouvement de balancier où on répond la réponse du berger à la bergère. Et c'est vrai que la nature de cette coopération militaire qui s'est dessinée entre la Russie et la Corée du Nord peut être absolument inquiétante, parce que au-delà d'une aide humanitaire à laquelle on pense forcément, puisque la Corée du Nord est toujours dans un état de sous-nutrition, a toujours des besoins absolument énormes, tout en ne prêtant pas beaucoup d'attention au bien-être de sa population, hein, on le sait. Elle essaye de développer son programme spatial. Elle veut avoir accès à des satellites de reconnaissance.
Aidée en cela par la Russie.
Donc en fait, de la même façon que la Russie a pu être à l'origine du balbutiement du programme nucléaire nord-coréen, que l'Iran et le Pakistan étaient derrière le programme balistique, eh bien sans doute que la Russie pourra aider la Corée du Nord à progresser en matière de capacité spatiale, et c'est quand même assez inquiétant.
Alors, je ne sais pas, Olivier Vesset, si vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que vient de dire Marianne Perrondoise et Sabine Janssen. Après ça, j'aimerais qu'on évoque la question de la Chine.
J'aurais que des répétitions à faire, je suis 90% d'accord, mais je ne pense pas qu'il faut trop somnibuler sur l'involvement,
l'engagement
de cette région, de cette région en Europe. Membership, membre de l'OTAN et tout, je pense qu'on est très loin. Et que d'autre part, au Nord, ils ont toujours réussi à trouver les moyens de développer leurs capacités.
Mmh. Sabine Janssen.
Oui, il faut rappeler que la Corée du Sud, c'est quand même le 8e exportateur mondial d'armes, donc qui a quand même une place importante, je dirais, globalement, hein, dans tout ce qui peut être justement fourniture d'armes. Mais moi, je suis assez quand même sensible à ce qu'évoquait Marion Perrondoise, c'est-à-dire au caractère un peu mondialisé de ces conflits régionaux. Mmh. Il faut quand même rappeler que la Corée du Sud, c'est la 13e puissance économique mondiale, que c'est un pays majeur en termes de semi-conducteurs, que c'est un pays donc très important pour tout ce qui est chaîne de production. Et ça rentre aussi, je dirais, dans la perspective américaine, dans la perspective chinoise. Hein, on est quand même là sur des théâtres qui sont mondialisés, indépendamment de ces points de conflit ou de tension. Il faut raisonner sur le plan économique et commercial. On est obligé quand même de raisonner aujourd'hui en termes mondiaux.
Alors, la Chine. Alors, oui, Olivier Vesset.
La Chine, premier partenaire commercial du Sud, premier partenaire économique du Nord. Bon, est-ce qu'on est aussi stupide de notre côté ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on a en face de nous des gens qui sont très bons et qu'on est incapables. Vous parlez des semi-conducteurs, il ne faut pas oublier Taïwan.
Bien sûr.
Oui, bien sûr, Taïwan, mais là, on parle de la Corée. Donc
Taïwan va construire. Ben oui, les semi-conducteurs, c'est aussi Taïwan. Mmh. Ils vont ouvrir une énorme usine aux États-Unis.
Oui, il y a une alliance d'ailleurs actuellement qui porte sur ces semi-conducteurs, hein, entre le Japon, Taïwan, la Corée du Sud et les États-Unis. Alors, je fais juste un petit rectificatif. Depuis la fin de l'année 2023, les États-Unis viennent de passer devant la Chine comme premier client de la Corée du Sud. Il y a eu quand même clairement une baisse des exportations de la Corée du Sud vers la Chine de 20%, ce qui traduit quand même, sur le plan économique, cette forme de raidissement et de cristallisation des blocs.
Et volonté de desserrer les taux. Alors, je pose ma question à propos de la Chine, parce que je n'ai pas réussi à le faire encore. On voit, Marianne Perrondoise, une certaine anxiété à Pékin face à la montée en puissance de l'influence russe en Corée du Nord. Qu'est-ce que représente finalement la Corée du Nord pour la Chine ?
Là, on est vraiment dans des diplomaties opportunistes. Hein, et la Corée du Nord montre qu'elle est capable de sortir son épingle du jeu avec beaucoup d'habileté. Et de la même façon, entre Poutine et puis Xi Jinping, il y a aussi ce rapprochement d'opportunité qui fait qu'on a en fait deux perturbateurs de l'ordre international qui ont trouvé le moyen de se rapprocher, mais qui étaient déjà, je dirais, sur un même terrain d'entente au sein de l'organisation de coopération de Shanghai, qui ont toujours trouvé des opportunités pour montrer une certaine forme d'alignement. Et c'est vrai qu'avec l'épisode ukrainien, peut-être que la Chine a été forcée, entre guillemets, de montrer un soutien plus effectif à la Russie, dans la mesure où finalement la rivalité ou la compétition de puissance s'est accentuée entre la Chine et les États-Unis, et que la Chine finalement trouve intéressant d'avoir des partenaires plus proches dans la mesure où elle pouvait se sentir assez isolée face à des États-Unis qui renforcent leurs alliances avec un certain succès tout autour de la Chine, qui peut, comme Pyongyang, se sentir encerclée par tout ce réseau d'alliances qui tend à se renforcer. Donc il y a un partenariat, je dirais, d'opportunité, et en même temps, c'est vrai qu'il y a cette ambiance de globalisation avec un Sud qui se montre de plus en plus critique face aux options et face aux injonctions et aux leçons de morale, je le mets entre guillemets, mais c'est bien comme cela que c'est ressenti, et en tout cas aux deux poids, deux mesures des pays occidentaux qui se montrent effectivement enclins. Je pense à des pays dont la position est assez ambiguë d'ailleurs, comme l'Inde, qui est à la fois proche paradoxalement de la Chine, proche des États-Unis, et qui n'a pas dénoncé effectivement le coup de force russe en Ukraine, parce que ses exportations d'armement sont en grande partie très dépendantes du bon vouloir de la Russie.
Mais très concrètement, en quoi ce rapprochement entre Pyongyang et Moscou agace la Chine ? Sabine Janssen. Non,
je pense que la Chine, elle a une diplomatie assez subtile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas caricaturer non plus les blocs. La Chine, depuis la fin des années 2000, a toujours cherché, d'ailleurs on le disait, c'est un partenaire commercial important pour la Corée du Sud. Elle a établi ses relations diplomatiques, d'ailleurs aux grandes dames de Pyongyang en 1992, et elle essaye, elle a instauré un format trilatéral avec le Japon et la Corée du Sud. Elle essaie de maintenir le dialogue. Et elle a toujours essayé, tout en aidant, bien sûr, la Corée du Nord. Elle a intérêt à ce que le régime dure. Et en même temps, elle a intérêt aussi à ce que ça ne dégénère pas en conflit. Je disais tout à l'heure qu'elle est à 300 km de la Corée du Sud. Elle a quand même intérêt, et frontalière avec la Corée du Nord, elle a quand même intérêt régionalement à ce qu'il n'y ait pas d'embrasement. Donc, c'est une politique assez subtile, à la fois de soutien à la Corée du Nord, mais aussi, je dirais, de politique de modération. D'ailleurs, on le voit dans ses votes. On voit que, à propos du comité des experts des sanctions de l'ONU, par exemple, elle s'est abstenue. Donc, c'est une politique assez tempérée qui vise à rester une force de stabilisation, à maintenir le statu quo. Alors, je pense que elle voit la Russie sûrement comme un élément davantage perturbateur. N'oublions pas quand même la guerre en Ukraine, même si on a ce discours depuis février 2022, en particulier conjoint avec la déclaration conjointe de Pékin et de Moscou, on a ce discours anti-occidental qui va rallier très très largement. Mais la Chine ne veut pas d'aventurisme, très clairement. Et elle a un peu l'impression que Poutine est dans une espèce de fuite en avant qui peut avoir des effets finalement catastrophiques.
Vous écoutez RFI, Marie-France Latin.
Alors la Chine ne veut pas d'aventurisme, ça me suggère évidemment cette question, il nous reste 6 minutes avant la fin de cette émission. Est-ce qu'il faut précisément avoir plus peur d'une guerre dans la péninsule coréenne qu'à Taïwan ? Et puisqu'on parlait d'exportation de la thématique nord-coréenne en Europe, la situation coréenne est une situation délicate à gérer pour les Européens. On l'a dit, Chine et États-Unis sont les principaux acteurs. Précisément, est-ce que ça ne va pas être l'occasion pour l'Europe de s'investir davantage sur les problématiques liées à la péninsule coréenne, Olivier Wessey ?
En écoutant votre question, j'aimerais partager un certain optimisme, mais je ne suis pas optimiste du tout, vu tout ce qu'il a été possible de faire du côté européen. Sur place, ce que j'ai vu, c'est que l'Union européenne a des capacités d'action humanitaire importantes sur place en Corée du Nord. Sinon, du côté européen, nous avons rajouté des sanctions européennes aux sanctions onusiennes et nous sommes les principaux acteurs de la dénonciation des droits de l'homme en Corée du Nord. Mais honnêtement parlant, les Européens n'ont pas vraiment de capacité d'action, si ce n'est de se plaindre tous les ans d'une situation sur laquelle ils n'ont pas de pouvoir. En plus, ils ne cherchent pas trop à connaître la réalité de la Corée du Nord, ça je l'ai vécu moi-même personnellement. Donc si vous voulez, ça ne les intéresse pas trop.
Et vous êtes le premier à le savoir, vous qui avez été, je le rappelle, le premier directeur du Bureau français de coopération à Pyongyang entre 2011 et 2013, donc il y a plus de 10 ans, ce qui veut dire que vos télégrammes n'avaient pas forcément d'écho à Paris, Olivier Wesset.
Ils avaient un écho, parce que sinon ils n'avaient rien à se mettre sous la dent, donc c'était important. Mais sinon, il n'y avait pas d'écho. Paris mettait dans le même panier le problème coréen et le problème iranien, dans le volet nucléaire. Il faut quand même être complètement dément. Il faut aller mettre les deux problèmes ensemble pour vous donner un exemple parmi tant d'autres. Donc, si vous voulez, l'ouverture du bureau, le directeur d'Asie de l'époque et Jacques Lang, ils ont dû tordre le bras à un certain nombre de personnes en France, que je ne nommerai pas, pour qu'il y ait cette ouverture du bureau. Et évidemment que la fermeture du bureau, en suivant l'exemple allemand, a dû faire très plaisir à un certain nombre de mes anciens collègues de plus haut niveau et de la haute administration. Donc, si vous voulez, honnêtement, au niveau européen, les seuls sur place qui étaient actifs, c'était les Britanniques et les Suédois. Voilà. C'était vraiment, et la Suisse d'ailleurs, avec un énorme bureau de coopération. C'était, voilà, c'était des pays qui tentaient de faire concrètement quelque chose. Au niveau européen.
Oui, mais je vais évidemment faire écho aux propos d'Olivier Wesset, peut-être dans une formulation un petit peu plus diplomatique, ce qui est quand même paradoxal. Ce que je veux dire, c'est que l'angle d'approche qu'a choisi l'Union européenne, oui, c'est vrai, ne se démarque pas de la position américaine. Et c'est ça le problème. C'est cette approche de prolifération tout azimut qui fait qu'on met dans le même panier des pays aussi différents avec une histoire et un positionnement politique que, bien sûr, la Corée du Nord ou l'Iran. Et si on ne veut pas voir que c'est essentiellement un problème politique et qu'il faut arriver avec des propositions qui, d'emblée, ne placent pas l'ouverture de négociations sur la base d'une dénucléarisation totale, vérifiable, irréversible, qui est le mantra américain dont on nous rabat les oreilles et que la Corée du Nord ne veut pas entendre, on n'arrivera pas à amorcer ou réouvrir un quelconque dialogue, puisque je pense que là, la confiance, elle est largement entamée en ce qui concerne Pyongyang et ce que peut penser Kim Jong-un d'un retour ou non de Trump aux affaires. Je pense que ça n'apportera pas un élément de fond, un élément de changement fondamental. Donc si l'Union européenne peut revenir peut-être et prendre en considération des propositions qui ne sont pas nouvelles, qui ont été formulées à plusieurs reprises par la Corée du Nord, par le président Moon, qui a été quand même très courageux dans ses propositions. Je pense à son discours de Berlin et je pense à ce fameux traité de paix qui mettrait fin, pour commencer, à ce régime d'armistice. Parce qu'on vit, je dirais, sous un régime d'un autre temps et on parle avec une certaine justesse d'une ambiance de guerre froide autour de la péninsule coréenne parce qu'on n'a pas su sortir de ce régime. Donc déjà, si on faisait ce geste de contribuer à faire renaître un minimum de confiance en donnant à la Corée du Nord ce qu'elle attend, c'est-à-dire la signature d'un traité de paix qui n'est pas très engageant mais qui pourrait progressivement marquer certaines étapes dans ce qu'on devrait peut-être appeler un processus de maîtrise des armements et non pas de dénucléarisation, peut-être qu'on se mettrait en situation de voir évoluer la situation.
Séoul n'a jamais signé le document de l'armistice.
Oui, c'est vrai, c'est les États-Unis. Oui, oui.
Point.
Fait pour eux, oui.
Marianne Perrondoise, merci. Je rappelle que vous êtes chercheure associée à l'IRIS, directrice de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'IRIS. Merci aussi à Sabine Janssen, professeure des universités au Conservatoire national des arts et métiers, chercheuse à l'ICT, Université Paris-Cité, et co-directrice en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro est consacré aux deux Corées. Merci Olivier Vesset, depuis Tokyo, ancien diplomate essentiellement en Asie, Olivier Vesset, qui a été le premier directeur du Bureau français de coopération à Pyongyang entre 2011 et 2013. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI. Place au Journal Afrique.